Poursuivons notre réflexion sur la prière d'oraison et nous sommes dans une partie de la réflexion qui concerne le cheminement de l'âme vers l'union à Dieu et c'est le deuxième aspect. La dernière fois, nous avions une réflexion sur le cheminement de transformation et cette fois-ci une réflexion sur le cheminement de dépouillement. C'est un peu comme ce que nous avons vécu à Rouen il y a quelques mois où nous étions dans une tour en train de regarder tout autour et à différents niveaux, en nous élevant, on avait différentes perspectives, mais toujours du même paysage. Et ce livre sur l'oraison que nous méditons mois après mois nous fait regarder le même paysage, mais de façon toujours plus profonde. Mais on repasse un peu par les mêmes lieux. Alors, prenons un premier point, ne pas s'attacher aux manifestations visibles en ce qui concerne les dépouillements, donc dans la prière. Ne pas s'attacher aux manifestations visibles. Et Peggy Wilkinson nous dit, l'âme est conduite au travers de la purification, le purgatoire, au travers de l'illumination, une lucidité, une maturation dans la sagesse divine, au travers de l'union, une conformité des volontés accomplies par le renoncement à l'humain pour le divin, et à travers la transformation divine ou mariage spirituel, le ciel. Où comblée et enflammée d'amour, l'âme est élevée dans l'étreinte de la Trinité. Donc voyez ce cheminement qui va de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et donc, il ne faut pas s'arrêter en chemin, ni s'attacher à des aspects de l'étape précédente. Thérèse d'Avila eut de nombreuses expériences mystiques dans les premiers stades et les stades intermédiaires de son cheminement spirituel. Et elle attribuait ses anciennes expériences à sa faiblesse. L'âme non préparée spirituellement, qui n'est pas encore l'égale de Dieu, est incapable de soutenir la puissance de l'influx divin. Elle est faible et ça produit en elle donc un certain nombre d'affaissements ou d'expériences qui ne sont pas à considérer à proprement parler comme des expériences mystiques de première valeur. De nombreux auteurs spirituels recommandent de ne pas rechercher les raptes et autres choses semblables, car les âmes peuvent s'abuser elles-mêmes en imaginant l'expérience et se causer beaucoup de tort. Thérèse et Jean de la Croix insistent sur l'amour, l'humilité qui assure la connaissance de soi, la prière, la pratique des vertus, la fidélité, et la détermination comme le chemin qui est authentique et avéré, et non pas des expériences mystiques bizarres. Lorsque Dieu a effectivement recours à des manifestations visibles, comme les raptes, les extases, les élévations, ces expériences offrent une image vivante de l'indescriptible béatitude et de l'exaltation au ciel, la destinée future de toute âme, et sont souvent le moyen de renouveler la foi humaine restée en arrière. Ce témoignage vivant nous rappelle que le même développement spirituel se produit dans d'autres âmes, bien que progressivement et sans manifestation inhabituelle. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des manifestations inhabituelles qu'on est arrivé plus loin. Le même développement se produit chez les personnes à côté de nous, mais sans ces aspects. Voilà, première chose, ne pas s'attacher à toutes sortes de manifestations visibles. Deuxième chose, ne pas craindre le désert spirituel, le vide. Les expériences joyeuses lors de la progression de l'âme sont bien accueillies par la plupart des gens, évidemment. Mais ce comblement ne peut avoir lieu qu'au terme d'un désemplissement correspondant. Le sentiment de l'absence de Dieu dont chacun fait l'expérience, à un moment ou à un autre, est en réalité une étape positive, un signe de maturation spirituelle. Il révèle non seulement que l'amour divin s'est accru dans l'âme, mais aussi que la conscience intérieure de l'âme a reconnu et intégré cet amour. Si un étranger vient à passer dans la rue pour ne plus jamais être vu, personne ne s'en soucie. Si un être cher s'absente, même pour une courte période, on ressent un profond désir et un sentiment d'absence. C'est la preuve qu'on a mûri dans l'amour et la communion avec cette personne. On n'identifie pas toujours les manques et les appétits de l'âme pour ce qu'ils sont. Cette absence de Dieu et la longueur de l'âme correspondante sont souvent désignées sous le nom d'expérience du désert, à cause des sentiments d'aridité, de stérilité, de vide, là où il y eut jadis l'amour, la joie et la félicité dans le Seigneur et la prière. Faisant l'expérience de ce qu'elles croient être l'absence de Dieu, de nombreuses personnes pensent de manière erronée qu'elles ont perdu Dieu à cause de quelques fautes qu'elles auraient commises. J'ai perdu la foi. Ceci peut signaler le début d'une nuit obscure. Deux petites citations de Saint Jean de la Croix. Ceux qui se trouveront dans cet état doivent se consoler, persévérant patiemment et sans se faire de peine. Qu'ils se confient en Dieu, qu'ils n'abandonnent point ceux qui le cherchent d'un cœur simple et droit. Et encore, il faut premièrement que l'âme soit mise dans le vide et la pauvreté d'esprit, la purgeant de tout appui, consolation, appréhension naturelle, tant à l'égard des choses d'en haut que de celles d'ici-bas, afin qu'étant ainsi vide, elle soit bien pauvre d'esprit et dépouillée du vieil homme. Pour vivre cette vie, cette nouvelle et bienheureuse vie qu'on obtient par le moyen de cette nuit obscure, à savoir l'état d'union avec Dieu. Le désert spirituel est la ligne de partage entre le naturel, qui est sous notre contrôle, et le surnaturel, où l'enfant spirituel doit être conduit par Dieu. Voilà, c'est la réponse à la question. Vous savez que tous les gens vous posent dans la rue, ça va ? Bonjour, ça va ? Alors, on répond, oui, ça va. Tout est sous contrôle. Puis il y a des moments où on répond, ça va, mais sans vraiment beaucoup de conviction, parce que précisément, c'est plus sous contrôle. Mais on veut pas le montrer, on veut pas le faire voir, on le dit pas. Mais voilà. Et le passage, la ligne de partage entre le naturel et le surnaturel, c'est ça. C'est que le naturel, bon, tout est sous contrôle, ça va bien. Quand on pénètre dans une zone surnaturelle, on est dans une zone de turbulence où il faut se déposséder et se laisser conduire par Dieu. Alors est-ce qu'on peut dire que tout va bien ? Là, c'est plus pareil. De nombreuses personnes font marche arrière à ce niveau-là, croyant de manière erronée que la contemplation n'est pas pour elles. Certains continuent en s'investissant dans des causes et des mouvements divers et dignes et souligne, pardon, qu'œuvrer, c'est prier. C'est pas faux, affirmation cependant qui est une demi-vérité. Voilà, on a le réflexe d'aller chercher dans l'action une satisfaction qui va combler le vide. Mais ce vide n'est pas mauvais, il est nécessaire. On peut comparer le douloureux état affectif de l'adolescence à l'expérience du désert. Tout comme pour arriver à l'âge adulte, il faut passer par l'adolescence, pour atteindre la terre promise, il faut passer par le désert. Ce serait une erreur que l'âme arrivée là fasse marche arrière. L'expérience du désert est douloureuse, parce que l'âme y est dépouillée de vieilles façons de faire, en préparation à la maturité spirituelle et à l'union à Dieu. Cette adolescence spirituelle n'est pas très connue et se présente souvent de manière inattendue à l'âme de prière. Les expériences de désert sont des temps de maturation significative, car l'âme reste fidèle par son seul amour de Dieu et non pas parce qu'elle jouit de consolations spirituelles. L'amour doit souvent être vécu dans des conditions adverses pour étendre sa capacité à celle du divin. Dans la tradition carmélitaine, l'expérience du désert est une part essentielle de la maturation dans la connaissance de soi. Et Thérèse d'Avila affirme que le Seigneur conduit les âmes au désert pour mettre à l'épreuve ceux qui l'aiment, dit-elle. Il veut savoir s'ils pourront boire son calice et l'aider à porter la croix avant de leur donner de grands trésors. Donc, passage nécessaire, cheminement de dépouillement. Un autre point, accepter les inconforts du voyage. Les sentiments sur Dieu ne sont pas Dieu. Oh, qu'est-ce que c'était bien! Non, ça c'est un sentiment sur Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et l'âme déterminée à suivre le chemin contemplatif ne s'arrêtera pour rien de moins que l'union à Dieu, pas au sentiment sur Dieu. Il est aisé d'être fidèle à la vie spirituelle quand la prière est délectable et que les choses se passent bien. Mais quand on atteint le désert et que Dieu semble lointain, ou lorsque dans la nuit obscure les doutes nous assaillent, c'est le moment idéal pour solliciter une réponse de foi plus forte. La vie spirituelle est dynamique et toujours changeante. Et si l'on n'y avance pas, on y recule. L'effort, la volonté de changer et même la douleur sont jugés nécessaires et sont endurés pour obtenir nombre des biens temporaires du monde. La forme physique, les sports, l'avancement professionnel. Là, on n'hésite pas à changer, on n'hésite pas à souffrir. Certains font des projets et travaillent pendant toute une vie en vue de la retraite qui, au mieux, revient habituellement à quelques années. Et pourtant, la vie éternelle sans fin pourra souvent ne pas même faire l'objet d'une pensée évanescente. Comme quoi, on a un problème de perspective. De nombreuses personnes se contentent du superficiel. Elles effleurent la surface de leur vie spirituelle. Et leur vie spirituelle reste peu profonde. Notre âme est faite pour être une étendue claire et limpide. Plus grands sont la profondeur et le calme, plus clair et vif est le reflet divin. Et pour cela, un vide ou un creusement est nécessaire. La clé du royaume par la porte étroite est la voie tracée par Jésus et suivie par les chrétiens au long des siècles, la voie de la croix. L'homme naturel, entêté, égocentrique, qui vit par son seul instinct, doit mourir pour accéder à un plus haut niveau d'existence et revêtir le Christ. Si on regarde les astronautes, on voit bien qu'il faut un entraînement, une préparation intensif pour pouvoir voyager dans l'espace. Eh bien, une préparation est nécessaire pour voyager dans l'espace intérieur. Dans une prière contemplative régulière, nous entraînons nos pensées éparpillées et nos affects indisciplinés, comme des enfants dissipés, à se bien comporter. Nous nous préparons en exerçant chaque jour les vertus et grâce à la lecture spirituelle. De même que tout doit être aseptisé avant de partir dans l'espace, au-dedans de nous, le feu de l'amour doit purifier l'âme en préparation au mariage spirituel. Donc ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas sans souffrance. Venons-en à ce passage très connu de Thérèse d'Avila, que vous n'avez peut-être jamais lu encore, et qui, avec lequel nous allons terminer, et qui est très éclairant. Elle dit, il y a quatre manières d'arroser son jardin. Avant l'arrivée du printemps, ça pourrait nous éclairer. Une union dans l'amour allant toujours en s'approfondissant, ainsi que la conscience et la jouissance de cette union, tel est le plan de Dieu pour chaque âme. Une union allant toujours s'approfondissant. L'histoire biblique de la Samaritaine près du puits était l'une des préférées de sainte Thérèse d'Avila, qui se servit des différentes manières de se procurer de l'eau pour expliquer les étapes progressives de la prière. Elle écrit, « Il me semble qu'il y a quatre manières d'arroser son jardin. D'abord, en tirant de l'eau d'un puits à force de bras, ce qui exige une grande fatigue de notre part, ou bien en tournant à l'aide d'une manivelle une noria garnie de godets, comme je l'ai fait moi-même quelquefois. Avec moins de travail, on puise une plus grande quantité d'eau. Ou bien en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau. La terre est alors mieux arrosée et mieux détrempée. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi fréquemment, et le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, il y a la plus abondante, c'est le Seigneur qui arrose, alors sans aucun travail de notre part. Et ce mode d'arrosage est sans comparaison supérieur à tous ceux dont nous avons parlé. Alors regardons ces quatre manières d'arroser son jardin de plus près. Première manière, les nouveaux venus à la prière contemplative commencent généralement avec la méditation discursive et la contemplation acquise ou la prière de recueillement, qui toutes requièrent de la préparation et un effort. Elle dit, les âmes commencent à s'adonner à l'oraison, nous pouvons l'affirmer, sont celles qui tirent péniblement l'eau du puits, comme je l'ai dit. Elles se fatiguent jour après jour pour recueillir leurs sens habitués à se répandre au dehors. Et c'est là un très grand travail, effort pour se recueillir, faire silence, prendre son temps de prière tous les jours. L'intention et l'attitude sont très importantes. Thérèse affirme que l'âme déterminée qui reste fidèle dans l'aridité a déjà parcouru une grande partie du chemin et repose sur un fondement solide. Que l'âme se trouve au commencement ou dans les plus hautes étapes de la prière, le cheminement conserve ses expériences joyeuses et douloureuses. Je dis donc que c'est dans les débuts que l'on rencontre le plus de difficultés, dit-elle. Car si Dieu donne son secours, c'est nous qui faisons le travail. Si l'entendement cesse d'agir, l'âme tombe dans un désert, dans une aridité complète. Or, comme cet édifice repose tout entier sur l'humilité, plus nous approchons de Dieu, et plus nous devons grandir dans cette vertu d'humilité. Mais si nous sommes orgueilleux, on va tout promener et l'édifice s'écroule. Thérèse assure que les âmes doivent s'animer d'une grande confiance. Nous devons attendre de la bonté de Dieu que nos efforts nous amèneront, je ne dis pas de suite, mais au moins peu à peu, là où beaucoup de saints sont arrivés avec sa grâce. Voilà, donc au début, beaucoup de transpiration. Deuxième façon de tirer de l'eau, la contemplation infuse commence avec la deuxième manière, la noria et les godets. Contemplation infuse. Thérèse appelle cela l'oraison de quiétude qui touche aux choses surnaturelles, mais l'âme ne peut en aucune manière y parvenir par elle-même, malgré toutes ses diligences. La description que donne Thérèse de ce dont l'âme fait l'expérience souligne la nécessité de l'abandon progressif de la volonté. Ceci, la prière contemplative, est un recueillement des puissances au-dedans de nous pour jouir de ce contentement avec plus de saveur. Donc on éprouve une plus grande paix, une plus grande unité intérieure. Mais les puissances ne sont ni perdues ni endormies. La volonté, l'amour, seule la volonté est occupée sans savoir comment à se rendre captive elle-même. Elle ne peut que donner son consentement pour que Dieu l'emprisonne, assurée qu'elle est de devenir la captive de celui qu'elle aime. Voilà, on persévère, on éprouve un plus grand goût à la prière, un plus grand recueillement, contemplation infuse. Dieu agit, on le perçoit, on s'abandonne, mais il faut consentir à ce que Dieu fait. Troisième manière, troisième eau qui coule du ruisseau ou de la fontaine par un canal, décrite par Thérèse comme un sommeil des facultés. C'est comme quand vous êtes chez le dentiste et vous faites une piqûre pour pour endormir la gencive. Le sommeil des facultés. Le Seigneur m'a souvent donné en abondance cette oraison. Jusqu'ici, je ne la comprenais pas et je n'aurais pas su l'exposer. Je voyais bien qu'il n'y avait pas d'union complète de toutes les puissances avec Dieu. Mais je reconnaissais clairement que cette union était plus parfaite que dans l'oraison précédente. Les puissances sont presque entièrement unies à lui, mais elles ne sont pas tellement absorbées qu'elles n'opèrent encore, malheureusement. Déjà les fleurs, les vertus commencent à s'épanouir. Il faut alors, ce me semble, s'abandonner entièrement entre les bras de Dieu. Vous voyez, au fond, on progresse avec plus d'abandon, toujours plus d'abandon, toujours plus d'abandon, à travers les différentes étapes. Pour arriver à la quatrième eau, qui est le symbole utilisé par Thérèse pour désigner la prière unitive. Dans l'oraison dont je vais parler, le sentiment cesse. Il n'y a que la jouissance, et encore, on ne comprend pas ce dont on jouit. On comprend que l'on jouit d'un bien, où se trouvent réunis tous les biens, mais ce bien lui-même, on ne le comprend pas. L'âme retire des avantages beaucoup plus nombreux et beaucoup plus élevés de cette oraison que les précédentes. Et son humilité est devenue plus profonde. Elle voit en effet très bien qu'une faveur aussi excessive et aussi grandiose n'est point due à ses efforts, à une diligence de sa part, et qu'elle n'a rien fait, soit pour l'attirer, soit pour la conserver. C'est vraiment Dieu qui agit. L'union de l'âme et de ses facultés à Dieu est le résultat des expériences du désert et de la nuit obscure, où la foi, l'espérance et l'amour sont mis à l'épreuve et fortifiés. Alors, on l'avait déjà dit la dernière fois, les saints, et particulièrement dans ce domaine, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, les saints sont des explorateurs spirituels ou des voyageurs dans le temps qui, par le véhicule de la grâce de Dieu, passent en esprit du temps à l'éternité avant de revenir tracer la carte des directions spirituelles pour tous ceux qui font le voyage à leur suite. Donc c'est intéressant de regarder leur carte, de prendre leur GPS. De même que pour nos voyages terrestres, il n'y a pas deux cheminements identiques. La route et les repères sont les mêmes, mais le cheminement fait l'objet d'une expérience unique pour chaque individu. Il faut que chaque âme traverse le désert et gravisse la montagne, mais les saints qui ont fait le voyage sont là pour rassurer. La terre promise est bien une réalité. Et les efforts et la détermination de l'âme à continuer, malgré l'aridité, ne seront pas vains. Et si vous tournez la page, il n'y a plus rien.